Vous écoutez les dossiers du FBI. Braquage à domicile. Deuxième partie.
2 ans après le vol d'une banque à Oklahoma City par Terry Connor et Joseph Dougherty, Connor avait été capturé. On l'avait reconnu coupable d'un vol de banque à main armée et condamné à 25 ans d'emprisonnement. Le FBI croyait que son complice, Joseph Dougherty, avait continué à prendre des otages et à faire d'autres vols de banque. Maintenant, les agents espéraient l'avoir enfin piégé dans une maison au Colorado. Plus tôt le même jour, ils avaient arrêté la petite amie du fugitif ainsi que l'un de ses complices. Elle confirma que Dougherty se trouvait bien à la maison avec leur enfant. Elle ajouta qu'il était armé. Une unité SWAT prit position en éventail autour de la maison. Parmi les hommes se trouvait le marshal Denny Barrand.
Joseph Dougherty est sorti de la maison et on a pu l'identifier formellement. Il a brandi un Magnum 357 et a commencé à tirer en direction de la forêt.
Mais Dougherty ne semblait pas viser les agents. L'unité SWAT ne devait pas riposter.
J'ai dit aux hommes de s'accroupir.
Denny Barrand, marshal.
Ne ripostez pas, ai-je ajouté, à moins que votre vie ne soit menacée.
Le marshal se rappelait cette voisine de Dougherty en Idaho qui avait déclaré que celui-ci avait l'habitude de tirer au hasard dans son jardin. Selon toute vraisemblance, Dougherty ignorait qu'il était surveillé. Les membres de l'unité devaient régler cette situation sans violence. Un négociateur du FBI appela à la maison.
Le négociateur nous a dit qu'il avait établi le contact, mais que la personne qui avait répondu avait raccroché. C'était un homme.
Les tireurs d'élite étaient prêts à passer à l'action, mais ils devaient attendre les ordres.
On devait prendre en compte la sécurité du bébé et des autres personnes qui se trouvaient peut-être dans la maison et dont on ignorait la présence.
Toutefois, les hommes devaient être prêts à riposter si Dougherty faisait feu sur eux. Le négociateur rappela à la maison. Il annonça au fugitif que sa petite amie et son complice avaient été arrêtés. Il lui demanda de prendre en considération la sécurité de son enfant et de se rendre de son plein gré. Par la fenêtre, les hommes le virent s'approcher de la porte. Il n'opposa aucune résistance.
Après avoir mis le bébé en sécurité, on a fouillé la maison et on y a découvert 16 armes à feu, notamment 2 fusils d'assaut tactique 308.
Denny Barrand, marshal.
Ces armes étaient toutes cachées, toutes chargées et prêtes à l'aider à assurer la défense de cette maison.
Dougherty fut inculpé et mis en détention dans l'attente de son procès à Oklahoma. Près d'un an et demi plus tard, le 19 juin 1985, 2 marshals firent monter Terry Connor et Joseph Dougherty à bord d'un véhicule et se dirigèrent vers le palais de justice d'Oklahoma City. Dougherty devait subir le premier de 4 procès, celui-ci pour le vol de banque et la prise d'otage à Oklahoma City 3 ans plus tôt. À titre de témoin, il avait assigné à comparaître son complice, Terry Connor. Sur une route isolée, les 2 hommes passèrent à l'action à l'aide d'outils obtenus par le biais de la contrebande en prison. Une clé de menottes et une lame de rasoir. Ils n'avaient jamais eu l'intention de se rendre au palais de justice. Ils s'emparèrent des armes des marshals. Ils leur ordonnèrent ensuite de ranger le véhicule. Ils les forcèrent à entrer dans les bois. Les 2 criminels feraient tout pour ne pas perdre leur liberté et rien ne semblait vouloir les arrêter. Le 19 juin 1985, 2 voleurs de banque, Terry Connor et Joseph Dougherty avaient échappé à deux marshals pendant qu'on les transportait vers Oklahoma City, où Dougherty devait comparaître. Les fugitifs menottèrent les deux marshals à un arbre et leur prirent leurs armes, leurs insignes, ainsi que leurs véhicules. Ils pouvaient maintenant se déplacer aisément. De plus, ils étaient armés, et pour l'heure, personne ne savait qu'ils s'étaient échappés. Ils disposaient d'une avance d'une quinzaine de minutes avant que les marshals ne se libèrent et signalent leur fuite. À la cour d'Oklahoma City, l'agent spécial Steve Chenoweth fut consterné en apprenant la nouvelle.
Je me suis d'abord dit que c'était impossible. On avait mis tant d'efforts dans cette affaire depuis toutes ces années. Que tout s'écroule ainsi, en l'espace d'un instant, nous a fichu un sacré coup.
Des caméras de sécurité fournirent des images d'autres crimes de Connor et Dougherty lorsqu'ils dévalisèrent deux petites banques de St. Louis. Les agents croyaient qu'ils avaient sans doute eu besoin d'argent pour reprendre leur vie d'avant.
Après leur évasion et le vol des deux banques à St. Louis, ils disposaient d'environ 30 000 dollars en argent liquide. Nous savions qu'ils allaient frapper une autre banque après avoir pris un gérant de banque et sa famille en otage. On savait en tout cas que les chances que cela se reproduise étaient très grandes et que ça pouvait devenir violent.
Deux mois plus tard, la police de West Allis au Wisconsin reçut un appel à propos d'un vol de banque. Les voleurs avaient emporté avec eux un butin d'un demi-million de dollars. C'était le vol de banque le plus important dans l'histoire de cet État. Le mode d'opération des voleurs était pas trop familier. Le président d'une banque et sa femme avaient été retenus captifs par deux hommes. Avec l'aide d'un complice qui faisait le guet, ceux-ci avaient ensuite dévalisé la banque. On put déterminer que Connor et Dougherty s'étaient trouvés sur les lieux en relevant leurs empreintes digitales. La police fit appel au bureau du FBI du Wisconsin. L'agent spécial Dan Kraft fut assigné à cette affaire. En lisant les dépositions des témoins, il constata que les fugitifs étaient de plus en plus audacieux, ne prenant même plus la peine de se déguiser.
Ils n'ont rien fait pour cacher leur identité, même s'ils n'ont pas eu l'audace de dire comment ils s'appelaient. Terry Connor a mentionné à la femme du président de la banque que le FBI saurait qui ils étaient.
En raison de la menace que représentaient Connor et Dougherty, on ajouta leur nom à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. La couverture médiatique qui s'ensuivit permit d'obtenir de nombreuses pistes. Un appel en particulier mena les agents à un homme qui avait peut-être servi de guetteur aux deux complices lors du vol de la banque au Wisconsin. Les agents diffusèrent à toutes les unités de patrouille la description de sa voiture. Quelques jours plus tard, un patrouilleur de l'État l'arrêta et appela le FBI. Après qu'on eut identifié l'homme, on le conduisit au bureau du FBI.
Nous avions un mandat d'arrêt fédéral contre lui à St. Louis, car il avait violé les conditions de sa libération conditionnelle.
Agent spécial Dan Kraft.
On l'a donc arrêté et conduit au bureau du FBI.
L'homme commença par refuser de répondre aux questions des agents à propos de Connor et Dougherty.
On a parlé avec lui sans relâche pendant 5 jours. Ce n'était pas aussi spectaculaire que les interrogatoires qu'on voit à la télévision et où les policiers ne lâchent pas le suspect. C'était simplement une conversation entre deux hommes.
Finalement, Kraft eut le dessus. Mais l'homme avait peur d'affronter Connor et Dougherty en cour.
Il a dit « Je veux bien collaborer, mais je ne veux pas témoigner en cour ». Je l'ai rassuré en lui répondant qu'il n'aurait pas à le faire. On a déjà tout ce qu'il faut contre eux, ai-je ajouté. Je veux simplement que vous me parliez de leur façon de penser. Je veux savoir comment ils s'y prennent pour le faire, de sorte que je puisse avoir une longueur d'avance sur eux.
Le suspect accepta de parler en espérant que sa peine soit réduite. Il raconta à Kraft comment Connor et Dougherty choisissaient les banques qu'ils dévalisaient, comment ils se déplaçaient et comment ils communiquaient entre eux par le biais de comptoirs de réception d'hôtels.
L'un d'eux appelait pour effectuer une réservation au nom d'un gardien de prison qu'ils avaient connu tous deux. L'autre appelait ensuite et demandait si cette personne était arrivée. L'opératrice leur disait alors, « Non, monsieur un tel n'est pas encore arrivé. » Il disait, « Puis-je lui laisser un message ?» Le complice appelait plus tard à ce même hôtel et prenait ses messages. Ainsi, ils pouvaient communiquer entre eux sans laisser de traces.
L'information la plus importante que révéla l'homme était le nom d'un autre individu qui avait aidé Connor et Dougherty à voler les banques par le passé. Il s'appelait John Harris. Les agents le trouvèrent à Tucson, en Arizona. En le surveillant, ils l'aperçurent en train de faire des appels et d'en recevoir à un téléphone public. Après avoir obtenu un mandat, ils mirent la ligne sous surveillance. Harris parlait à Connor et Dougherty.
On espérait, grâce à cette surveillance, trouver d'où provenaient ces appels.
Steve Chenovet, agent du FBI.
Et en enquêtant dans ces secteurs, retracer les suspects.
Les agents découvrirent que les fugitifs appelaient de Chicago, où ils planifiaient un autre vol. L'agent spécial George Spinelli du bureau du FBI de Chicago distribua des photos des fugitifs aux hôtels de la région. Une femme déclara avoir aperçu un client qui ressemblait à Joseph Dougherty, même si ce nom ne figurait pas sur le registre de l'hôtel.
En regardant le registre, j'ai vu un nom d'emprunt qu'avait utilisé Connor dans le passé. Je me suis alors dit que nos deux fugitifs, qui se trouvaient sur la liste des hommes les plus recherchés, se trouvaient peut-être dans cet hôtel.
L'agent Steve Chenoweth prit un avion pour Chicago et rejoignit les autres agents à l'hôtel. Le client qui ressemblait à Dougherty semblait avoir réglé sa note. Les agents surveillèrent alors la chambre où Connor logeait vraisemblablement. S'il se trouvait à l'intérieur, on devait le faire sortir pour éviter une confrontation.
On était très inquiets parce que cela pouvait dégénérer, d'autant plus que Connor avait juré de ne jamais se faire capturer en vie. On a donc pris toutes les précautions possibles.
Une équipe d'arrestation mit au point une opération qui aurait lieu dans le stationnement de l'hôtel. Finalement, un agent du FBI aperçut quelqu'un sortir de la chambre. C'était Connor. Il était seul. Les agents demandèrent à l'unité SWAT de procéder à son arrestation.
Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. On a immédiatement mis la main sur lui.
Même si l'on n'avait pas vu Joe Dougherty, il semblait être dans les parages et s'être rendu compte de la présence des policiers.
Quelqu'un a appelé la réception pour demander ce qui se passait.
Steve Chenoweth, agent du FBI.
C'était un homme, peut-être un des clients de l'hôtel. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de Dougherty. Il tentait de savoir ce qui s'était produit.
Les agents fouillèrent tout le secteur, mais ne trouvèrent pas Dougherty. Celui-ci commettrait certainement d'autres vols avec un nouveau complice dès qu'il en aurait la chance.
Cet homme n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait faire un vol par lui-même. Il devait trouver quelqu'un pour l'aider.
Les agents du FBI croyaient qu'il appellerait alors John Harris. Ils apprirent que ce dernier avait pris l'avion pour San Francisco. Une fois encore, ils le virent utiliser régulièrement un téléphone public. Ils firent mettre cette ligne sur écoute.
Environ une semaine plus tard, il a reçu un appel de Joe Dougherty.
Dougherty disait appeler de St. Louis. Et pourtant, les techniciens du FBI n'arrivaient pas à situer l'appel hors de San Francisco.
On s'est alors aperçu que Dougherty ne se trouvait pas du tout à St. Louis. Il était dans le même secteur que nous.
Les agents se rendirent compte que, de fait, Dougherty surveillait son complice pour voir s'il était suivi. Il fallait espérer qu'il n'ait pas repéré les agents civils. Croyant que son complice et lui n'étaient pas suivis, Dougherty donna rendez-vous à Harris le lendemain matin à San Francisco. Les agents arrivèrent sur les lieux tôt et virent arriver Dougherty comme prévu.
Et c'est alors qu'on a vu tout un groupe d'agents du FBI qui en avaient plein le dos de cette poursuite sauter littéralement sur Joseph Dougherty. Et c'est ainsi que se sont terminées cette saga et cette poursuite.
Après une chasse à l'homme qui avait duré plus d'un an à l'échelle du pays, Terry Connor et Joseph Dougherty ont été jugés pour leurs crimes les plus récents. Ils ont écopé chacun de 2 peines d'emprisonnement à vie, plus 139 ans sans possibilité de libération conditionnelle.
Vous venez d'écouter les dossiers du FBI. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les dossiers du FBI est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures. Adapté de la série documentaire audiovisuelle FBI Files, produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Lisa Fett et David O'Donnell. Il a été réalisé par Greg Francis. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Kosiewicz, Mandy Lebourg et Astrid Verdun. Assisté de Marie Agassin. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Olivier Citroux.